Le métro lillois, c'est toute une épopée qu'on va évoquer aujourd'hui avec Jean-Michel Stivenard, donc journaliste qui vient d'éditer, publier un ouvrage conséquent sur le VAL, V-A-L. Sans doute va-t-il nous rappeler d'ailleurs la définition qui a changé entre le concept initial et la version définitive. Et donc Jean-Michel Stivenard, heureux de vous accueillir à l'antenne de Radio Campus.
Bonsoir.
Et donc, on va présenter cette épopée, on peut dire une épopée.
Ah oui, parce que quand l'aventure démarre, personne ne peut dire qu'elle ira jusqu'au bout. Pour tout dire, il s'agissait de relier un campus avec ses étudiants et une ville qui se construisait autour, avec ses habitants, au centre de l'île. Et en cherchant les moyens de transport de l'époque, la voiture individuelle était quand même, ça a été confronté à des voiries saturées. Les autobus avaient rapidement leurs limites du fait de la saturation des voies. Et donc les inventeurs de la ville nouvelle, les initiateurs de la ville nouvelle, ont eu l'idée d'inventer un moyen de transport qui n'existait à l'époque nulle part au monde.
Alors, il y avait un tout petit exemple aux États-Unis, il me semble, pour voir un peu ce qui s'est passé, une expérience décevante, hein, finalement, qui s'est arrêtée. Et puis, le projet a été conçu par quelqu'un, un génie, on peut dire, qui est dans l'université de Lille, qui était à cette époque-là, chercheur.
Alors, effectivement, aux États-Unis, d'abord, il y avait un transport automatique, un petit véhicule automatique dans un parc d'attractions. Je ne sais plus si c'est Disney World ou Disneyland. Je pense que c'est Disneyland. Et l'université, la Californie, essayait d'expérimenter un moyen de transport autour de l'université d'Harvard. Et ils ont inventé un moyen de transport automatique qui s'appelait le BART. Et lors des premiers essais, le véhicule est tombé dans un fossé et on n'en a plus jamais parlé. Et il existait sur le campus un professeur de radiologie urbaine. Il était spécialiste des ondes. Gabillard, Robert Gabillard, qui avait été approché par les animateurs de la ville nouvelle, qui l'ont envoyé aux États-Unis. Qui lui avait demandé, il lui a payé un billet d'avion en lui disant, écoutez, allez voir un peu ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est effondré. Et il a fait une visite, très simple, et puis il a dit, bah oui, ça ne pouvait pas marcher, parce que l'instruction qui partait dans un sens se contredisait avec les instructions qui arrivaient dans l'autre sens, et donc forcément ça n'allait pas. Et puis, puisque vous me le demandez, moi, je ne suis pas du tout compétent, mais j'ai un maximum d'incompétences à mettre à votre disposition, je peux chercher avec vous. Et il a trouvé le moyen de faire circuler des véhicules sur un circuit qui n'avait plus besoin d'être conduit par des humains. Vous savez, à la limite, on est surpris, mais les petits trains électriques, c'est un peu ça. Il n'y a pas de conducteur des petits trains électriques. Ça marche tout seul autour du circuit. Eh bien, à partir de ces trains électriques, alors c'est un peu plus complexe, surtout quand on transporte des hommes, et des femmes et des enfants, mais c'est le même système. Et il a inventé un moyen de transport automatique. Ça part tout seul, ça s'arrête tout seul, les portes s'ouvrent toutes seules. Voilà, il l'a inventé.
Voilà. Alors, c'est pas complètement automatique dans la mesure, enfin, disons, il y a quand même de l'humain dans le système, puisque les gens qui dirigent à distance quelque chose qui est relativement autonome, mais ils ont quand même la main sur l'outil.
Ah, il y a des centres, il y a des centres de direction. Il y a des postes de commandement, bien entendu, au bout de la ligne. Ici, sur le campus, au bout de la ligne, il y a l'endroit où ont été commandés le métro pendant 10 ou 20 ans. Maintenant, le centre de commandement est à la gare de Lille. Et effectivement, il y a des gens derrière les écrans.
Ça rassure.
À l'époque, ça rassure pas. À l'époque, on ne sait pas ce que c'est qu'un écran. Il faut voir s'il y a 40 ans de ça. On ne sait pas du tout ce que c'est qu'un écran. On sait pas. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir des salles de commandement avec des écrans partout, et puis des gens qui manipulent des boutons comme dans un studio de radio. Mais à l'époque, personne n'en avait l'idée. Et je dois dire même qu'il était interdit. La loi interdisait de transporter des voyageurs s'il n'y avait pas quelqu'un pour les conduire. Comme si comme si la présence humaine, l'homme, était en capacité d'avoir les bonnes réactions, alors que la machine ne l'était pas. On a un peu changé d'époque.
Alors, c'est vrai qu'à la fois, on a trouvé des solutions techniques pour faire voyager des gens de manière automatique, d'une certaine manière, mais aussi on a utilisé de nouvelles possibilités pour aller plus vite et pour s'adapter à des circonstances parfois imprévues. En fait, Gabillard, ce professeur, avait presque tout prévu, tous les cas de figure, les problèmes qui pouvaient se poser et les parades multiples pour y faire face.
Très franchement, l'invention du professeur Gabillard, qui a été déposée, authentifiée par un brevet qu'il a déposé, elle n'a jamais été mise en œuvre. À partir de sa réflexion théorique, les équipes de Matra, qui avaient reçu le marché, ont mis en place, ont inventé véritablement le métro automatique. Mais Gabillard, il a eu deux rôles essentiels. Le premier, c'est d'avoir dit « oui, ça marche ». Einstein a dit que tout marchait de manière théorique et on le démontre 10 ans, 20 ans, 100 ans après. Et il a fait un peu la même chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il est resté sur le dossier jusqu'au bout au titre de la sécurité. Et il a été présent à tous les moments de figure pour inventer des incidents. Et la manière d'y remédier. Et de fait, ce métro, on peut le dire, il est pas très bien vu en ce moment, mais du point de vue de la sécurité, il n'a jamais fait de faute. Ça, c'est quand même exceptionnel. Le seul véritable accident, c'est un accident qui est arrivé de l'extérieur, quand pendant les travaux de Ralil, un engin de chantier, une tarière a percé une galerie du métro et que la rame s'est enroulée autour. Ça, c'est le seul incident de l'extérieur, il ne dépend pas du métro. Franchement, un moyen de transport qui n'existait pas, inventé de toutes pièces, qui n'a jamais eu d'accident, ça, c'est un coup de chapeau qu'on peut tirer, notamment au professeur Gabillard.
Alors voilà pour les aspects techniques et conceptuels, on va dire, de ce Val. Donc Val qui voulait dire au départ Villeneuve d'Inscl-Isle, c'était un peu la ligne qui était prévue et puis qui s'est allongée, dédoublée pour aller dans d'autres villes. Alors tout, j'allais dire, un combat peut-être de chefs, de sous-chefs parfois, d'élus aussi, entre eux.
Écoutez, au départ, c'est prévu pour relier la ville nouvelle et son campus et le centre de Lille. Et donc le métro doit s'arrêter à la gare de Lille. C'est ça, Villeneuve-d'Ascq, Lille, Val. Et puis, progressivement, quand les expérimentations commencent à marcher, quand les journées portes ouvertes commencent à avoir du succès, quand les gens se disent bah, « y a là quelque chose », quand on fait la queue le dimanche après-midi pour aller faire un tour de métro qui est en train de se construire, à ce moment-là, tout le monde comprend bien que ça peut pas rester aussi petit. Et donc, très normalement, la communauté urbaine, qui a la responsabilité des transports, se dit, moi je ne peux pas financer un métro entre Villeneuve-d'Ascq et Lille, par contre, je peux inventer un moyen de transport pour toute la métropole. Et c'est la raison pour laquelle, avant de prendre la décision, la communauté urbaine élabore un plan de 4 lignes de métro, dont la première se trouve être non plus Villeneuve-d'Ascq-Lille, mais Villeneuve-d'Ascq-Lille et jusqu'au bout de Lille, jusqu'au CHR.
Alors on peut peut-être parler des rivalités d'une certaine manière, même parfois dans le même camp politique, de personnalités, d'élus qui ont essayé de s'accaparer et de faire arriver, bien sûr, le métro dans leur ville. Alors, certaines villes étaient un peu hostiles, d'ailleurs, à cette arrivée. Il y a eu des sortes de sondages, ou même peut-être pas de référendums locaux, mais de demandes d'avis de l'opinion publique locale.
Oui, mais ça, je vais être un peu cynique, hein, mais tous les riverains étaient contre, y compris ceux de Villeneuve-d'Ascq, d'ailleurs, y compris ceux de la cité scientifique. Les chercheurs avaient peur pour leurs instruments de mesure, ils avaient peur d'être envahi par la ville. Donc tout le monde avait un peu peur.
Ouais, parce qu'on peut peut-être rappeler qu'à l'époque, le campus, c'était privé, c'était l'État, mais il n'y avait pas la possibilité pour l'extérieur de pouvoir entrer comme ça. Il y avait une sorte de zone de protection qui était du fait de l'université, des personnes qui vivaient, travaillaient dans l'université.
Pendant des décennies, il y avait deux panneaux à l'entrée de l'université. C'était écrit « Domaine privé de l'État ».
Tout à fait.
« Défense d'entrée ». Et j'ai connu un secrétaire général de l'université qui, le dimanche après-midi, coursait les promeneurs et leur disait « Vous n'avez pas le droit d'être là ». Ça n'a pas duré longtemps. Et d'ailleurs, heureusement. Mais à partir du moment où on a vu que le métro pouvait rendre un service extraordinaire aux habitants et permettre le développement des zones qui étaient autour, à ce moment-là, c'est là où il y a commencé à y avoir des rivalités. Et notamment, dans les premiers tracés, le métro devait passer par Mons-en-Barœul. C'était le campus, la ville nouvelle, la ZUP de Mons, réunie au centre de l'île, ce qui était plutôt intelligent. Et puis, parce que les habitants ont rechigné, parce que ça a été mal négocié, parce que c'était un peu brutal, hein, le métro était aérien à l'époque. Il passait par les petites rues. Et il y avait certains riverains qui retrouvaient, au niveau de leur premier étage, des voitures qui passaient toutes les minutes, ou les minutes et demie. Faut reconnaître, c'était pas terrible. Et donc, ils se sont, à Mons-en-Barœul, ils se sont rebiffés, ils ont rechigné, et finalement, ils ont interdit, pendant un bref temps, au métro de passer. On aurait pu le négocier. On aurait pu faire une concertation publique, comme on sait les faire maintenant, peser le pour et le contre, poser les arguments, mettre les compensations en place. Ça n'a pas été fait. Le président de la communauté urbaine, d'un moment de colère, a dit « Bon, ça ne peut pas passer par Mons. Eh bien, tant pis, ça va passer par LM ». LM qui a beaucoup souffert, on s'en souvient, il a été complètement transformé, mais aujourd'hui c'est la chance d'LM, qui a quatre stations sur son territoire et qui est une petite ville de cheminots bien pauvre, qui aujourd'hui se trouve quand même un axe d'habitat important. Mais à Mons, la ZUP de Mons, dans les années, au début des années 80, ça commençait les quartiers, comme on disait, les quartiers qui flambaient, pas encore Mons. Mais le maire de Mons, qui était Marc Wolf, a eu le pressentiment de ce qu'il était indispensable que sa ville ne soit pas un lieu de relégation, comme c'est beaucoup dans les banlieues où on y va, on peut pas en sortir parce qu'on n'a pas de moyens de transport, on y reste et puis on y fait parfois un certain nombre de bêtises. Et le maire de Mons avait eu l'idée avait la perception que pour éviter la relégation, il fallait le métro. Et donc, il s'est battu contre vents et marées pour avoir la suite de la ligne numéro 1 qui passe par chez lui. Ce qui n'était franchement pas la solution la plus simple, la plus économique, mais il pensait que c'était nécessaire pour relier l'ancienne ZUP de Mons, lui redonner une chance au reste de la métropole.
Voilà, donc la ligne 1, bon, c'était la première, hein, elle a été inaugurée, il me semble, par François Mitterrand.
François Mitterrand, le 25 avril 1984, il est arrivé ici, sur le campus, à la station 4 Cantons. Il est arrivé en hélicoptère et il a pris le métro jusqu'à la préfecture. Ça va, ça restait modeste.
Ça va. Donc voilà, c'était symboliquement une façon de superviser les travaux et de cautionner un projet qui allait devenir hyper important. Alors, la ligne 1... les gens l'ont beaucoup emprunté et la ligne 2 a commencé seulement à être concrétisée, ou d'abord imaginée et validée.
Il y a toujours eu des gens qui ont dit il n'y a pas de raison de commencer par Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq, c'est une ville de rien, qui n'existe pas encore, il n'y a pas encore d'habitants, il n'y a pas de raison de leur donner un métro. Et ces gens-là, il y a notamment un lobby qui s'est constitué à Roubaix, autour d'un journal, et le journal Nord Éclair, avec quelques personnes qui ont dit « Non, non, le premier métro, ça doit être celui de Roubaix ». Pour tout dire, ils étaient en train de militer, parce que Roubaix est desservi par un moyen de transport historique, qui était le Mongy. Mm-hmm. Je dis qui était, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne dit le Mongy.
En fait, c'est le tramway. Le Mongy, c'est le nom de celui qui a conçu.
C'est le promoteur.
promoteur.
C'est le promoteur. C'est comme si on disait, c'est la maison, c'est la maison Bouygues, c'est le quartier Bouygues ou le quartier Next City. Voilà. C'est le constructeur, c'est celui qui a créé une société pour permettre la réalisation d'un tramway entre Lille, Roubaix, d'une part, Tourcoing, d'autre part. Et ce moyen de transport qui avait presque 100 ans, la concession arrivée à expiration, vieillissant, il n'y avait plus personne dans le Mongy, Et donc l'idée, c'était de permettre au Mongy de continuer en passant sous Lille et d'aller ensuite vers le CHR. C'était ça l'idée. Et il y avait des études qui étaient faites, des bureaux d'études qui étaient missionnés pour étudier un tramway souterrain qui allait jusqu'au CHR. Et puis en même temps, les villes nouvelles, ils étaient en train de construire un métro aérien. Il y avait quand même des choses un peu surprenantes. Et finalement, l'intelligence des gens, des uns et des autres, a fait que le métro aérien, qui est devenu plus tard souterrain, a pu se connecter au tramway souterrain et devenir la ligne 1 et la ligne 2. Et donc la ligne 2, c'est que un certain nombre de Roubaisiens, je dis bien un certain nombre, autour du journal Nord-Éclair, on dit le premier métro qui doit exister, c'est celui qui part de Roubaix, c'est là où il y a les habitants. Tous les Roubaisiens n'étaient pas d'accord. Le maire de Roubaix, notamment, André Diligent, disait « Moi, le métro, j'en veux pas, donnez-moi l'argent, je vais rénover les courets. Puis avec ça, je paierai des autobus pendant 10 ans. » Bon, aujourd'hui, plus personne ne les aurait payés.
Alors, c'est vrai que l'argent, on dit, c'est le nerf de la guerre. C'est surtout pour entreprendre ce genre de chantier énorme, une base très importante. Et souvent, il y a un manque par rapport au projet initial, un manque de financement. Il faut encore trouver de l'argent pour compléter ce qui a été conçu, prévu, budgété.
Eh bien, c'est très surprenant quand on se plonge dans l'histoire. Il y a 40 ans, on ne se posait quasiment jamais le problème de l'argent. Au départ, pour inventer ce nouveau moyen de transport, il fallait faire des études. Les études, ça coûte un peu, mais ça coûte pas très cher. Et les villes nouvelles, pour tout dire, avaient full crédit. Elles avaient les moyens de mobiliser des crédits de tous les ministères, donc l'argent, elles le trouvaient facilement. Et puis après, quand il a fallu construire la ligne 1, ça coûtait quand même dans les 600 millions. De 600 millions d'euros de si on les convertit, eh bien il y avait des subventions qui étaient énormes, et finalement le problème de l'argent ne se posait pas. Il y a même un moment où Pierre, le patron de l'inventeur, le père du métro, Arthur Nottebar, disait les voitures je les finance avec la subvention de l'État. Les lignes, je les finance avec une augmentation d'impôt, qui est la taxe sur les transports, qui existe aujourd'hui. Et puis, à ce moment-là, les communautés urbaines avaient été superbement dotées. Il me reste les stations à financer. Eh bien, les stations, disait-il, on va les sous-traiter à des fabricants de meubles, par exemple, qui vous diraient station du Triolo, station meubles Ikea. Voilà, il n'y avait plus que ça à payer dans la tête de ceux qui le décidaient. Ça coûtait pas cher. Quand on est arrivé à la ligne 2, avec un professeur d'économie à la tête de la revendication qui était Marc Wolff, c'est devenu un peu plus cher, et là, il a fallu augmenter les impôts, etc. Mais au départ, ça coûtait rien.
Donc, pour l'instant, je ne sais pas si on peut dire qu'il coûte encore, sans doute, mais il est en partie payé par les usagers. Enfin, on va dire les usagers, les clients, comme on veut.
Oui, une petite partie. Une petite partie, allons. Disons-le franchement, partie significative. En ce moment, j'ai un peu oublié le chiffre, mais disons, mettons un tiers. Il y a les deux tiers qui sont payés par les finances publiques, c'est-à-dire les impôts de tout le monde, les ressources de tout le monde, et puis le petit tiers, peut-être un peu moins, qui est payé par les utilisateurs. Et le débat sur la gratuité, il est là aujourd'hui. Ce petit tiers qui est payé par les utilisateurs, s'il ne le paye plus, c'est possible, mais le métro, il continue à coûter aussi cher. Donc il va falloir prélever davantage sur les finances publiques, et donc se priver d'autres choses. Puis il y a toujours le débat, est-ce qu'il vaut mieux rendre le métro gratuit, ou bien, au contraire, augmenter ses capacités ? Alors, augmenter les lignes.
Augmenter ses capacités. Il y a longtemps que c'est dans les tuyaux, en allongeant les rames, puisque l'espace est prévu pour les accueillir en station. Et cela, ça a beaucoup traîné. J'ai vu une lettre qui a été, je ne sais plus qui l'a signée, pour réclamer que le travail de l'entreprise qui devait allonger, prolonger ces rames, le fasse réellement. Ça fait 10 ans que ça traîne, ou 20 ans.
Le métro a été inventé, le métro de Lille, le Val, a été inventé pour être un tout petit métro. Parce qu'à ce moment-là, de toute façon, le métro, c'était pas fait pour les petites métropoles. C'était fait pour Paris, Lyon à la limite, Marseille, ça devenait déjà à limite, encore plus limite, et Lille, il n'en était pas question. Et donc, le métro qui a été inventé ici était un tout petit métro, 26 mètres. 26 mètres de longueur, c'est pas beaucoup. Petite capacité, sauf qu'il est très rapide. Que donc la capacité faible de chaque voiture est multipliée par la fréquence. Et donc, c'est comme ça qu'on s'en sortait. Et puis, franchement, les promoteurs se sont toujours dit, si un jour il faut augmenter la capacité, on l'augmentera. On peut doubler facilement les voitures. Et donc, il se trouve que, pour d'autres raisons, les stations ont été calibrées immédiatement pour pouvoir accueillir des rames deux fois plus longues. Mais c'est pour une autre raison. C'est pas par prévision. C'est parce que à l'époque, on avait tellement peur que le métro automatique ne marche pas. Premièrement, il n'existait pas nulle part dans le monde. Deuxièmement, que les utilisateurs refusent de l'utiliser, refusent de monter dans des voitures qui n'étaient conduites par personne, que les promoteurs, jusqu'au dernier moment, ont imaginé un plan B qui aurait été de doubler les voitures, de faire des voitures de longueur de 52 mètres, deux fois moins fréquentes, conduites par des conducteurs. Et d'ailleurs, les premières voitures ont été construites avec la possibilité de mettre un conducteur. Voilà. Et donc, les stations ont été calibrées pour accueillir. Donc, ça tombait bien. 20 ans ou 30 ans plus tard, quand le métro s'est révélé un moyen de transport extraordinaire, 500 000 visiteurs, 500 000 voyageurs par jour. C'est extraordinaire. C'est vraiment l'aspirateur de tous les transports publics qui ont été organisés autour. C'est bien. Donc, quand il s'était avéré être trop petit, eh bien, il a été proposé. Et ça date de 2007. Il a été décidé, confirmé en 2009, de doubler la capacité de la ligne 1. 2009. Voilà. Et puis, le problème, c'est qu'entre-temps, le métro avait vieilli. Entre-temps, c'est que les automatismes, ils étaient un peu... Quand Gabillard a commencé, il mettait des petites... Il n'y avait pas les microprocesseurs. Ils n'existaient pas. Ça n'existait pas. C'était pas encore inventé. Donc, il y avait des petites barres métalliques le long des voies qui enregistraient les données. Et donc, plus tard, le constructeur du métro... Siemens, qui avait pris la succession de Matra, a fait savoir qu'il n'était plus en capacité de le rendre opérationnel et de permettre son développement. Donc il en déclenchait l'obsolescence. Et donc il a fallu non seulement augmenter la capacité, mais aussi changer les automatismes. Et c'est là où c'est devenu plus compliqué. C'est là où c'est devenu plus compliqué parce qu'il fallait faire vivre sur le même circuit. Il fallait faire vivre des machines anciennes et des machines nouvelles, des automatismes anciens, des automatismes nouveaux. Et c'est là où c'est devenu plus compliqué que prévu au départ et que certains retards significatifs ont été pris. Voilà, ils ont été pris.
Alors, entre-temps, dans d'autres pays, je pense par exemple quand je vais en Chine, dans les métropoles, il y a des métros très longs parfois. Il n'y a pas forcément de... Entre les wagons, on peut passer de l'un à l'autre. Enfin, je veux dire, c'est d'un bout à l'autre, on peut circuler à pied. Hein, et donc, ça fonctionne. Donc, est-ce que la technologie externe, maintenant, a permis des solutions à ce qui était au départ fait ici, dans les conditions de l'époque, et qui a pu être amélioré?
C'est pas la peine de faire rêver les auditeurs sur ce qui se passe en Chine. Hein. Il suffit d'aller à Paris. À Paris, vous avez la ligne 1, par exemple, qui est totalement automatisée et qui est un long ruban où on peut passer du début de la rame jusqu'à la fin, tout au bout du quai, qui existe déjà. Ça marche très bien. Et ça va marcher très bien ici. Simplement, ce qui a posé problème, je le dis, c'est la cohabitation nécessaire entre un ancien système et un nouveau. Or, on a pris la décision ici, je pense que c'était la décision raisonnable, de ne pas arrêter le métro pendant les travaux. Ça aurait été dur, un an, deux ans, d'arrêter. Là, on ne l'a pas arrêté. Mais du coup, on a 4 heures chaque nuit faire les essais.
Encore maintenant ?
Encore maintenant. Le métro fonctionne avec son ancien système jusqu'à minuit.
Ouais.
À minuit, on débranche l'ancien système, on branche le nouveau système. À 4 heures du matin, on fait l'inverse.
Ah oui.
Et, bon, maintenant, ça va un peu mieux parce que tout est à peu près au point. Et il y avait 24 entreprises qui pouvaient intervenir. Il y en a une qui était sur les portes, il y en a une qui était sur les réseaux, il y en a une qui était... Et voilà. Et donc, pendant les 4 heures, chacun voulait faire ses essais. Comprenons que c'était pas, ça ne facilitait pas les choses. Ça n'explique pas le retard d'aujourd'hui.
Mm-hmm.
Ça explique qu'on a pris, dans les 10 ans de retard, ça en explique bien 5-6.
D'accord. Bon, donc, on peut dire que de nouvelles générations connaîtront un métro... On peut dire peut-être plus performant, en tout cas qui accueillera plus de personnes, toujours en étant autonome.
Toujours autonome, toujours automatique. D'ailleurs, aujourd'hui, l'automatisme s'est emparé des moyens de transport dans le monde entier. Hein. À Paris, il devient automatique ligne après ligne. En Chine, les technologies, j'imagine qu'il est maintenant totalement automatique. Et donc, le 52 mètres, bon, ça aurait été mieux que ça soit déjà le nouveau métro de Lille, la ligne 1, ça aurait été bien que ça soit déjà en place, ça ne l'est pas. Mais les voitures, elles sont là. Elles sont toutes à 200 mètres du studio, là, sur le garage atelier du métro. Il y a 12 rames, je crois, de 52 mètres qui ont été commandées, qui ont été fabriquées par Alstom à Petite Forêt, tout près de Valenciennes, et qui sont arrivées.
Alors, c'est vrai qu'on a cette chance en région d'avoir des constructeurs.
Ah, on est une grande région ferroviaire.
Ouais.
On est une grande région ferroviaire et ça a joué, tout ce qui se passe autour de... Assez curieusement, il y avait trois concurrents pour l'extension du métro. Hein. L'extension du métro, il y avait trois concurrents. Il y avait Siemens, qui était le titulaire du marché. Il y avait Alstom, qui était installé totalement à Valenciennes. Et il y avait Bombardier, qui était aussi installé à Valenciennes. Bon, Bombardier a été racheté par Alstom. Et vous savez, enfin, il y a trois ans, Alstom a failli être racheté par Siemens ou l'inverse. C'est la Commission européenne qui a bloqué le mouvement. Donc, nous sommes une grande région ferroviaire. Et donc, on est en capacité de produire des voitures. On produit des voitures pour tous les TGV presque du monde. On produit des voitures, on produit des métros. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne le produise pas pour chez nous.
Alors, Jean-Michel Stivenard, on est ensemble aujourd'hui pour parler de cet ouvrage qui s'appelle Le Val. Hein, et donc, Histoire du métro de Lille, qui représente quand même un énorme... chantier au départ, lui tout seul, 410 pages quasiment.
Oui, c'est beaucoup. Hein.
Hein, c'est pas rien. Puis très documenté, oui. Très fouillé, avec plein de choses très précises. Et puis aussi, on voit bien à l'intérieur de ces explications, ce qui a été deux pas en avant, un pas en arrière.
L'inverse.
Voilà, parfois l'inverse. Et puis les concours de circonstances, les aléas politiques, enfin toute la petite histoire dans la grande histoire.
J'ai eu la chance d'être, non pas acteur, je le reconnais humblement, mais j'ai été témoin. J'ai été témoin, ça s'est passé à côté de moi. J'étais à la communauté urbaine quand Marc Wolff a fait une déclaration, j'étais à côté d'Arthur Nottebar quand il a dit que, j'étais à côté de Gérard Caudron quand il a fait en sorte que le métro ne soit plus aérien mais devienne souterrain. J'ai été témoin. Et j'ai eu la chance de pouvoir interroger les acteurs, les constructeurs, des hommes de chantier, des ingénieurs, des concepteurs. Je crois que c'est une chance qui est définitivement derrière nous. Beaucoup sont partis. Déjà, j'ai pas pu interroger Nottebar, mais Pierre Mauroy, je l'ai vu souvent, il n'est plus interrogeable. Beaucoup s'en vont. Et donc, j'ai en quelque sorte livré l'état des sentiments. Alors après, quand on fouillera dans des archives, on verra sans doute des choses plus précises et peut-être contradictoires avec ce que j'ai dit. Mais en tout cas, je livre à ce moment la totalité des informations qui sont disponibles sur le métro.
40 ans d'histoire, d'aventure et de concrétisation, c'est ce qui intéresse.
Et de réussite.
Et de réussite.
Même si on est plutôt mécontent, le métro dont on a été si fier, on a été fier du premier métro automatique du monde. Pendant un temps, la diplomatie industrielle de la France, elle se jouait autour de l'Airbus et du Val. Chaque fois qu'il y avait une délégation du Japon, de Chine, le premier ministre de Chine, il est venu visiter le métro à ce moment-là. On en a été une fierté extraordinaire. Aujourd'hui, plus personne vient le visiter. Et aujourd'hui, c'est le métro de la panne, c'est le métro des retards, c'est le métro de la saleté, ça a été le métro de l'insécurité. C'est un peu triste.
Ouais, après, il faut quand même mettre un petit bémol. On le prend quand même et on n'a pas forcément peur d'y aller, d'être en retard, etc. Enfin, ça peut jouer, mais pas plus que le train, la SNCF.
Pas plus que le train. Beaucoup moins que le train.
Moins que le train.
Beaucoup moins que le train. Ouais. Et les moyens de substitution sont assez bien organisés.
Voilà. Donc, pour le public, forcément, c'est un atout considérable. Pour aussi les gens qui ont cherché à habiter dans des endroits plutôt que dans d'autres, la proximité du métro, tout de suite, ça a fait flamber aussi les prix des mètres carrés.
Ça, c'est une étude que je n'ai pas faite. mais bien sûr, ouais. Bien entendu. Et Arthur Nodbar avait un certain sentiment sur ce domaine, et il développait le problème de la municipalisation des sols. Il aurait bien voulu que tous les sols autour des gares de métro soient municipalisés. Bon, c'était pas possible, mais il les a zadés. Il les a zadés, ça veut dire que dans un rayon de 300 mètres, je crois, autour de chaque station de métro, eh bien, il y avait des prescriptions urbanistiques. Ce qui fait qu'il a fait en sorte que on ne puisse pas, certains intérêts privés ne puissent pas se gaver sur l'investissement public. Ça, il n'a pas trop mal réussi. Mais en même temps, il faut voir ce qui se passe autour des stations de métro. Il y a des entreprises qui s'installent, des grandes entreprises. Et quand on voit un promoteur immobilier, ou même pour un appartement ou une maison, il vous dit à 5 minutes d'une station de métro, ou à 10 minutes. Mmh. C'est un argument de vente extraordinaire. Je pense que ça a bien dû jouer sur l'état des patrimoines d'un certain nombre de personnes de la métropole.
Alors, c'est vrai que dans les projets de métro autour de Lille, hein, pourquoi il n'y a jamais eu une ligne qui arrive à l'aéroport de l'Équin ?
Il y a une chance historique qui a été ratée. Le métro, c'est celui de la ville nouvelle. C'est la ville nouvelle qui a imposé le métro. La ville nouvelle, au départ, c'était 10 communes. Lausanne, les trois Asques, Vinasque, Flers, Anappe, mais aussi Lausanne, Forêt-sur-Marc et l'Équin. Et puis, les trois communes Asques, Anappe et Flers ont fusionné et ont fait la commune de Villeneuve-d'Ascq. Et elles ont, d'une certaine manière, stérilisé le reste de la ville nouvelle, le reste du territoire de la ville nouvelle de l'Île-Est. Et donc, l'Équin a quitté, en quelque sorte, n'était plus de la compétence de l'EPAL qui construisait la ville nouvelle. Je suis persuadé que si l'EPAL avait encore eu la responsabilité de l'Équin, de faire la ville nouvelle sur l'Équin, eh bien je suis persuadé que le métro serait allé jusqu'à l'aéroport. Là, il n'y avait pas de raison d'y aller. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile, parce qu'entre la station de métro Terminus, quatre cantons, et l'aéroport de l'Équin, bah, c'est plein de vide. C'est plein de vide, et ça va y rester encore parce que il y a les champs captants, donc il va pas y avoir des centaines d'habitations et des milliers d'habitants. Donc, de ce point de vue, je crois qu'on a laissé passer la chance. Vous savez, il y a une navette maintenant. Non, il y a une ligne d'autobus qui part de l'aéroport avec un ticket de métro Ilévia et qui arrive jusqu'aux quatre cantons.
Oui, alors après, pour prendre l'avion, comme le train d'ailleurs, on aime bien être un peu sûr d'arriver à l'heure.
Ah oui, ça
alors c'est que vrai. La circulation sur l'autoroute, parfois...
C'est vrai.
Donc je pense que ça aurait été une vraie idée intéressante et pratique qui assure des transports internationaux facilités. Hein.
Mais aujourd'hui, oui, mais d'abord, est-ce que nous voulons vraiment avoir des transports internationaux? Alors, c'est le débat de l'aéroport.
C'est un vrai débat de l'aéroport qui veut doubler sa surface, peut-être.
Hein, sa capacité, de toute sa façon, capacité. Hein. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Alors qu'on est à Roissy, à 45 minutes de Roissy, alors qu'on
et
est
Bruxelles.
À... On n'est pas loin de Charleroi, pas loin de Bruxelles. Ouais. Peut-être.
Voilà, donc il y a des débats, hein. Je sais qu'il y a des associations qui s'y opposent fortement.
Bah, ça crée un peu de bruit, hein. Ça crée un peu de nuisance, un aéroport.
Oui, c'est certain. Bon, après, c'est difficile d'être à 100% de toute perfection dans quelque système que ce soit. Il y a toujours des petits inconvénients. Hein. Et donc, sans doute, est-ce qu'on peut dire que les gens sont consultés suffisamment ou est-ce qu'ils délèguent aux élus la responsabilité totale d'engager toute action en leur nom sans avoir trop leur mot à dire?
Quand on a fait le Val, franchement, on n'a rien demandé à personne. ça s'est passé entre quelques personnes. Mmh. Je raconte dans le livre, Arthur Notbar, quelques ministres. Bon. Aujourd'hui, c'est plus complexe.
Ouais,
et les habitants ont pris. Et par exemple, la métropole, la MEL, a lancé un nouveau schéma directeur des transports qui est évalué à 2 milliards. Sans doute, il en faudra un petit peu plus. Eh bien, il y a eu une longue consultation sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Ça se traduit par deux lignes de métro, deux lignes de tramway et deux lignes de BHNS, c'est-à-dire des bus qui fonctionnent à grande capacité. Il y a eu des débats publics, il y a eu des réunions, et on peut dire que c'est toujours pas bouclé parce qu'il y a encore des petits problèmes de passage à Saint-André et ailleurs, mais les habitants ne se laissent plus imposer un tracé de la même manière qu'il y a 40 ans.
Voilà, en tout cas, je pense que les étudiants d'aujourd'hui sont, de ce point de vue, plus heureux que les étudiants des années 70 de pouvoir circuler entre eux. Et on peut peut-être rappeler que le tarif 3 stations, je pense qu'il est dû au fait que pour aller de l'île 1 à l'île 3, à l'époque, on avait trouvé un moyen de faire un peu moins payer les étudiants.
Alors ça, c'était mon petit combat. C'était mon petit combat, parce que moi j'aurais bien aimé que je trouvais que le campus était irrigué par le métro, et que la liaison entre les deux campus, elle était irriguée par le métro. Et moi, dans mon rêve, dans mon fantasme, bah, il suffisait de monter dans le métro. Et puis je suis parfois monté, et puis avec des étudiants notamment, puis je disais, bah non, il faut un ticket. Un ticket, bah, c'était pas à leur mesure. Et moi, j'aurais voulu vraiment que ça soit gratuit, à l'intérieur du campus et entre les deux campus. Bon, je n'ai pas gagné le combat. Par contre, à un moment, ceux qui étaient favorisés dans les transports collectifs de la métropole, c'était les personnes âgées. On considérait que quand on avait 60 ans ou 65 ans, il fallait qu'on paye plus, paye moins. Et puis, il faut voir les débats à l'époque. Chaque séance de la communauté urbaine, il y avait une nouvelle mesure en faveur de la gratuité des transports des personnes âgées. Et dans les années, c'était du temps de Pierre Mauroy, Éric Quiquet, qui était le vice-président au transport, Mauroy lui avait donné mission de revoir les tarifs à condition de rester au même équilibre budgétaire. Mmh. Et donc il a décidé de supprimer la gratuité pour les personnes âgées, très dur à vivre pour nous, et d'inventer ce tarif ZAP, qui était une réponse insatisfaisante, incomplète, mais quand même une petite avancée pour les étudiants. Bon, mais je ne connais aucun étudiant qui qui prenne le métro aux quatre cantons pour venir à la cité scientifique.
Alors, tout dépend, hein, s'il y a un beau spectacle qui peut être présenté sur un des pôles artistiques de cette belle université de Lille.
Eh bien, très bien.
Merci Jean-Michel Sivenard. Donc, on n'a pas dit, mais on va le préciser, que Le Val est édité chez...
J'ai un petit éditeur local, régional, qui s'appelle Gilles Guillon.
Voilà, et donc...
On le trouve dans toutes les librairies de Lille.
Parfait.
Et de Villeneuve-d'Ascq.
Ben merci pour toutes ces précisions qui, je ne sais pas si certaines complètent peut-être même le livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, où bien sûr j'ai appris beaucoup de choses, et c'était une occasion peut-être de présenter au public, j'allais dire, un livre d'histoire.
Livre d'histoire.
Merci beaucoup Jean-Michel Sivenard. Très bonne journée.
Merci.